42 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, 418-971, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Vous pouvez nous écouter via le blvd.fm avec la web radio, l'application mobile. Boulevard 102.1, votre haut-parleur intelligent à la maison également et les bonnes vieilles ondes FM dans votre voiture ou bien sur votre vieille radio à la maison. J'aime bien ça, là. J'ai mon vieux speaker là, qui a une radio intégrée, puis souvent c'est de là que je mets le 102.1 sur les ondes FM. Pourquoi tu me regardais? Je pensais que tu avais quelque chose à dire, Mathias.
Okay, parfait. On peut faire un tour de circulation, si tu veux.
Ben, allons-y.
Juste vous dire, il y a quelques ralentissements, surtout des ralentissements habituels en raison des travaux, là, notamment 20 direction ouest entre Taniata, chemin des Istes au rouge actuellement, un petit quelque chose, Henri IV direction sud, à hauteur de Charret, boulevard Laurier, un peu de ralentissement aussi en direction est, à hauteur de Robert Bourassa. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Toujours un plaisir de lui parler, puis aujourd'hui, on a une longue liste, là, plusieurs sujets à l'international. Georges Mercier, analyste politique. Salut mon ami.
Salut Max.
Fait beau du côté de Montréal?
Fait beau, fait chaud, sortez vos maillots, comme disait l'autre.
Bon, ben parfait. Ici à Québec, on est très, très bien aussi. Tu voulais absolument commencer, Georges, en me parlant de scènes carrément surréalistes en fin de semaine aux funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei du côté de l'Iran. Puis là, on entre peut-être un peu dans les gros stéréotype ou dans... Mais de voir des messieurs comme ça brailler la mort d'Ali Khamenei, il y avait de quoi de surréaliste?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'abord, surréaliste, parce qu'on a vu ces images-là de foule toutes drapées de noir qui déambulent dans les rues de Téhéran pour pleurer la mort d'Ali Khamenei qui a été tué dans des frappes américano-israéliennes. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est que c'est des images qui ont beaucoup circulé. On voit les principaux dirigeants de l'Iran, les chefs de guerre, des hommes qui résistent au Satan occidental, et ils sont devant le cercueil et ils pleurent. Et ils pleurent et ils ont l'air de pleurer de manière sincère. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Bon, d'abord, certains, j'en parlais ce matin à Cube, puis on me dit dans les commentaires, ben, dans le monde musulman, c'est normal de pleurer, d'accord, peut-être. Peut-être c'est normal de pleurer. Néanmoins, vous êtes un chef d'État, vous êtes face à la planète, est-ce que c'est l'image que vous voulez montrer? La question que ça posait, c'est pourquoi est-ce qu'ils pleuraient comme ça? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sincèrement tristes? Le cas échéant, ça veut dire que même ces leaders-là, qu'on dit parfois plus pragmatiques, plus modérés, plus ouverts à faire des compromis, mais ben, ils y croient encore à la révolution islamique et au projet idéologique de l'Iran. Où ils sentaient le besoin de pleurer parce qu'ils étaient surveillés par d'autres personnes qui tiendraient véritablement le pouvoir en Iran. Et donc, ils prétendaient, ils feignaient d'être si tristes pour donner des gages à ces autres personnes-là. Je ne sais pas c'est quoi la bonne interprétation, mais ce qui est certain, c'est que toutes ces funérailles-là ont été orchestrées pour envoyer un signal, oui, à la scène internationale, mais aussi aux Iraniens, que le régime islamique, il est encore en selle, il est encore bien ancré au pouvoir et qu'il est fort. Et la question que je me pose, moi, c'est, est-ce que c'est le dernier grand coup d'éclat de la République islamique d'Iran qui avait été fortement contesté en décembre et en janvier, ou au contraire, c'est un signe que ça s'améliore? Puis juste rappeler un élément qu'on mentionne pas assez souvent, la guerre en Iran, là, la guerre contre les Iraniens du côté des Américains et des Israéliens, elle a quand même fait moins de morts que le nombre de personnes que le régime iranien a tué lui-même en fin décembre, début janvier. Je pense qu'il faut le rappeler pour les auditeurs de temps en temps.
Pendant ce temps-là, est-ce qu'on a des développements dans le conflit États-Unis-Iran? Là, on en est où? Parce que là, on se souvient, il y avait eu ce fameux protocole d'entente. Là, finalement, ça avait comme replanté. Puis là, finalement, c'était comme revenu correct. Puis là, on est où?
Je pense que ça tient tant bien que mal. Là, les négociations avaient été arrêtées justement pour permettre aux Iraniens de organiser ces grandes funérailles-là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est la reconfiguration des alliances au Moyen-Orient auquel le conflit donne lieu. Puis je donne un exemple. Tu sais, la diplomatie, parfois, ça passe par des déclarations, ça passe par des rencontres au sommet. Ça peut passer par des signaux beaucoup plus subtils. Et l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Hezbollah avaient envoyé des délégations aux funérailles pour offrir leurs condoléances. Et les Iraniens les ont accueillis par des versets du Coran. Et ce qui est drôle, c'est que ces versets-là donnaient un message. Donc, aux Saoudiens, on disait essentiellement, vous faites attention de ne pas vous allier avec les impies, à savoir les Américains, ça pourrait vous revenir d'en face. Mais aux Qataris, on disait, on vous pardonne vos péchés, vous pouvez revenir avec nous. Et aux Hezbollah, on disait, vous êtes essentiellement les meilleurs d'entre tous. Donc, il y a eu un jeu de géopolitique aussi à ces funérailles.
On célébrait en fin de semaine le 250e anniversaire des États-Unis, notamment avec une quantité complètement débile là, de feux d'artifice. Il me semble qu'on a beaucoup vu Donald Trump dans les festivités. Puis je me demandais, George, est-ce que c'est normal ou tu penses que ça aurait été très différent avec un autre président de se mettre à l'avant-plan comme ça dans les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance?
C'est sûr que ce qu'on célèbre lors de la fête de l'indépendance et lors des célébrations de l'anniversaire, c'est pas le président actuel. C'est les États-Unis en tant qu'État, en tant que nation. La tradition voulait que les présidents se tiennent loin des célébrations du 4 juillet, justement pour qu'on confonde pas les deux. Que Donald Trump se mette à l'avant-scène, je pense que si vous étiez surpris par ça, je sais pas vous habitiez où dans les dernières années, là, c'était tout à fait normal et prévisible. Évidemment, ce que ça cause comme problème, c'est que ça polarise la célébration. Vous êtes un démocrate farouchement opposé à Trump, vous avez pas envie de lui voir la face. Alors, lorsque vous célébrez votre pays, dans un contexte aux États-Unis où il y a une forte polarisation, ici, les républicains se disent encore beaucoup extrêmement fiers d'être américains. Les démocrates se disent de moins en moins fiers de l'être, les démocrates et les indépendants. Donc, on a eu des célébrations polarisées, notamment en raison de l'incapacité de Trump à faire passer l'État au-dessus de sa propre personne.
Ouais, ben c'est ça. Je me demandais, parce que nous autres, on voit ça de l'extérieur, mais est-ce que là-bas, ça s'est vraiment senti les dernières années au sein des célébrations qui sont d'habitude grandioses aux États-Unis, où tout le monde se rassemble vraiment? Est-ce que la division s'est quand même sentie durant cette journée-là?
Moi, j'ai hâte de voir les ratings du discours de Donald Trump, est-ce qu'il a été écouté ou non, mais c'est pas seulement les célébrations en ce moment. Hein. Vous prenez dans Washington, vous avez des images de Donald Trump un peu partout parce qu'il tente d'apposer son visage. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les démocrates se sont aussi rassemblés autour d'un dog et d'un barbecue pour regarder les feux d'artifice? Probablement. Les Américains demeurent un peuple qui est farouchement patriotique par-delà le président actuel. Néanmoins, ça a tendu à rendre ces célébrations beaucoup moins consensuelles qu'elles auraient pu l'être et qu'elles auraient dû l'être, parce que ça faisait quand même 10 ans qu'on les planifiait.
Là, Trump a livré des discours en lien avec ces célébrations-là, puis tu parlais de partisanerie. Là, Trump, il a l'air d'avoir une nouvelle fixation. Puis là, on le connaît, Donald Trump, là, quand il passe quelque chose, il va probablement être là-dessus pendant une couple de semaines. Là, Trump est parti sur les communistes. Ça part d'où?
Ah, et ça lui fait plaisir. Il le jubile en ce moment, Donald Trump. Bon, pourquoi il parle de communisme? Le Parti démocrate, aujourd'hui, est en train de se fracturer en deux ailes. Vous savez, le Parti démocrate qu'on connaît, les Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, des gens centristes qui veulent respecter les institutions du marché, la libre compétition, mais essayer de tweaker sur les bords pour avoir un peu plus de justice. Dans le champ gauche, vous avez ce qu'on appelle les démocrates socialistes des États-Unis. Ils sont organisés autour de la figure de Zoran Mamdani. Ces gens-là se disent socialistes, pas communistes, et ils défendent des mesures, des politiques publiques beaucoup plus à gauche que ce à quoi on est habitué aux États-Unis. Par exemple, l'assurance maladie universelle, définancer la police, ouvrir les frontières, cesser d'envoyer des armes à Israël. Donc, des politiques sont beaucoup plus à gauche. Ils ne se disent pas communistes, mais Donald Trump les dépeint comme tels. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, ce qu'il fait, c'est qu'il réactive tout l'imaginaire américain qui s'est forgé pendant 50 ans dans la lutte contre le communisme. Et donc, ça lui donne un super bel argument de vente. Parce que l'Américain moyen entend communiste, il entend le danger, il voit Staline, Brejnev, l'URSS. Et donc, peut-être que dans le contexte des midterms, où Trump n'a pas rempli ses promesses, il n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie socio-économiques de l'Américain moyen, mais il a besoin d'un nouvel argument de vente. Et s'il parvient vraiment à dire qu'il y a un péril rouge aux États-Unis, là, il y a un méchant argument de vente.
Est-ce que tu penses que la peur du communisme aux États-Unis, on comprend d'où ça vient? T'sais, dans l'histoire, en effet, historiquement, il y a une peur, une crainte du communisme aux États-Unis. Mais est-ce que où on en est aujourd'hui, en 2026, je veux dire, n'importe qui en ce moment, puis c'est mon avis, mais de censer un minimum, je veux dire, tu viens parler de que là, le communisme va arriver, prendre le contrôle des États-Unis, ça me semble complètement débile comme idée. Ça fait-tu peur à du monde pour vrai?
Je pense que le terme fait peur à des gens. Puis là, il y a une grosse différence, tu viens de le nommer, Max. C'est que durant la guerre froide, il y avait un État ouvertement communiste qui avait des espions, qui déstabilisait le monde, qui était en compétition avec les États-Unis. Là, même s'il y avait des communistes aux États-Unis, des gens qui se réclamaient des idéologies liées à Marx et tout ça, ils sont pas soutenus par un État et c'est pas la Chine qui va exporter son idéologie, la Chine qui est plus vraiment communiste de toute manière, aux États-Unis. Mais néanmoins, l'électeur moyen entend un mot. Et ce mot-là, il charrie des craintes, il charrie une histoire, et ça peut fonctionner même si la menace est pas réelle.
Le sommet de l'OTAN qui se tient cette semaine en Turquie, est-ce que, encore une fois, là, pour tout le monde, la stratégie va être de pas fâcher trop Donald Trump, qui a déjà menacé complètement de se retirer de l'OTAN, ce qui serait une catastrophe pour cette organisation-là?
D'abord, il faut dire que Trump ne peut pas se retirer de l'OTAN. Il y a une loi qui a été passée sous Biden qui dit que le Sénat doit approuver un retrait américain de l'OTAN. Donc, il ne pourrait pas unilatéralement s'en sortir. Maintenant, évidemment, ce à quoi on risque de citer cette semaine, c'est de la flatterie, parce qu'on a compris qu'on a beau tenter de faire preuve d'indépendance, d'être un peu musclé avec Trump, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, on risque d'annoncer des mesures ou des objectifs qui vont plaire à Donald Trump. Elles ne seront pas claires. On ne sait pas comment elles vont être mises en œuvre, mais on risque de voir le flatter dans le sens du poil. D'ailleurs, ce qui est significatif pour le sommet de l'OTAN, c'est qu'ils se tiennent à Ankara, en Turquie, parce que Erdogan, le président turc, est un leader assez autoritaire. Et on sait que Donald Trump, pour une raison ou une autre, apprécie les leaders plus autoritaires qui ont l'air de contrôler fermement la population. Peut-être que ça va l'aider à apprécier son moment là-bas, puis ça va limiter les flamèches qu'on pourrait voir.
Une nouvelle sur laquelle je suis curieux, Georges, de t'entendre, je l'ai vu passer, puis bon, c'est le genre de nouvelle où je me dis, OK, c'est-tu quelque chose d'intéressant qui va faire jaser, peut-être notamment au sommet de l'OTAN, ou si c'est quelque chose qui va passer un peu dans le beurre, la Chine qui dit avoir effectué un tir d'essai de missile dans le Pacifique, c'est-tu intéressant ou ça va passer dans le beurre?
Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Évidemment, si les Américains veulent se servir de cette nouvelle-là pour faire monter les tensions avec la Chine puis justifier d'autres mesures en Asie-Pacifique, on risque d'en parler. Mais là, en l'occurrence, on parle d'un essai de routine qui a été annoncé avant. Les pays limitrophes avaient été avertis qu'il allait avoir ça. C'est pas particulièrement significatif. Les armées font souvent des essais militaires, hein. Par exemple, il y a des exercices militaires entre la Corée du Sud et les États-Unis, par exemple, dans la région, qui sont faits assez fréquemment.
En terminant, Georges, est-ce que tu suis un petit peu la Coupe du monde de soccer de la FIFA?
Mais là, ce que j'ai compris, c'est que si on veut remporter, il faut être ami avec Donald Trump, comme ça on peut se faire enlever nos pénalités. C'est comme ça que ça fonctionne à ce temps-là, ça?
Ben en effet, parce que ce matin, Donald Trump l'a confirmé, puis ça avait déjà circulé, puis ça nous surprenait pas du tout du personnage, là, mais Donald Trump qui a confirmé qu'il a bel et bien demandé à la FIFA la révision du carton rouge qui a été donné à pas mal le meilleur joueur américain, là, ce qui fait qu'il n'aurait pas pu participer au match de ce soir contre la Belgique. Puis lui, Donald Trump, déjà sur Truth Social, entre autres, semblait quasiment lancer le message que c'était grâce à lui que la FIFA avait accepté de revenir sur sa décision et de retirer ce carton rouge-là et donc la suspension. Mais là, ça met du monde en simonac à travers le monde en partant par la Belgique qui, là, tu t'allais affronter les États-Unis sans son meilleur joueur. Puis là, parce que le président appelle la FIFA puis dit « Hey, salut, moi, je m'appelle Donald Trump puis je pense que ce call-là n'était pas le bon. » Là, whoop, la FIFA décide de faire ce qu'elle fait très, 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 très rarement, voire jamais, revenir sur une suspension. Ça lance un drôle de message, puis ça montre à quel point Donald Trump, encore une fois, est un drôle de personnage.
Moi, ce que je trouve intéressant ici, bon, je t'avoue, je connais absolument rien du soccer, je peux même pas te dire combien de temps dure une partie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça illustre comment Donald Trump voit les relations internationales. Il y aura un ensemble de règles pour tout le monde. Puis après, il y aurait des règles spéciales pour les Américains. Puis puisqu'ils sont plus forts, puis puisque, en l'occurrence, maintenant, ce sont eux qui accueillent en partie la Coupe mondiale, mais ils auraient le droit d'avoir des faveurs. Un élément sur la FIFA, c'est pas l'organisation la plus probe et honnête de l'histoire de la planète, hein. Je veux dire, les liens entre le président, M. Infantini et Trump sont assez forts. M. Infantini, on parle d'un homme qui a essentiellement créé un prix Nobel de pacotille pour pouvoir le donner à Trump et flatter son ego. Donc, qu'il y ait des malversations entre les deux, ça ne me surprend pas. La question, c'est comment on réagit. C'est parce que si vraiment les gens sont en calvaire par rapport à ça, et les autres pays pourraient protester de manière beaucoup plus forte. Par exemple, c'est de refuser de jouer certaines parties ou refuser des jeux. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, on ne le fera pas. Ça va être beaucoup, beaucoup de protestations au niveau des discours, mais ça risque de passer comme dans du beurre par la suite.
Georges, merci. On peut t'entendre tous les jours, notamment du côté de Cube 99.5 Montréal et à LCN aussi, hein?
Et à LCN à 9h.
Merci beaucoup, Georges. À la prochaine.
Merci, Max.
Georges, merci, analyste politique international. On avait une bonne liste d'épiceries à faire. Je pense qu'on a pu passer sur tous les sujets. Fait que tant mieux. Au retour de la pause, on revient directement ici à Québec sur le plancher des vaches, j'ai envie de dire, parce qu'on parle avec David Rémillard. C'est un journaliste pour Radio-Canada. Et Radcan nous arrive ce matin avec un dossier, bon, celui de David Rémillard. La répression de l'itinérance fait des dégâts à Québec. Et donc, dossier de Radcan, comme je le disais, je pense que plusieurs sont en faveur d'une certaine répression face à l'itinérance à Québec. Puis quand on parle de répression, ben c'est quand il y a... On parle entre autres des fameux campements. C'est beaucoup à ça dont on fait référence. Et là, ben David Rémillard a parlé, entre autres, à des personnes en situation d'itinérance, à des gens au sein d'organismes aussi qui viennent dire « Ouais, c'est parce que c'est vraiment pas une bonne idée d'aller en ce sens-là. » Donc, on en parle au retour de la pause avec Monsieur Rémillard. En attendant, Mathias, dans la circule.
Oui, juste vous indiquer un accident qui vient de se produire. La 73 direction sud à hauteur du pont Pierre-Laporte, la voie de droite qui est présentement entravée. Donc, faites attention si vous circulez dans le secteur.
Le point de match. Le